Alors, les absents ont toujours tort, donc j'ai raté la moitié de ce qui a été dit. Donc, je ne sais pas où se sont arrêtés mes amis. Je sais ce qu'ils, j'ai entendu ce qu'ils viennent de dire à l'instant. Simplement, j'aurais bondi sur un mot que j'ai entendu tout à l'heure. Je pense que dans la situation qu'est la nôtre, qui est une situation désespérée, tragique, comme il l'a dit, Il faut faire gaffe aux mots qu'on utilise. Il a utilisé le mot en rappelant que ce n'est pas tout à fait ça, mais ça laisse supposer que ce n'est pas loin. Il a utilisé le terme de génocide. Je tiens à le reprendre dessus. Il n'y a rien qui ressemble à ça dans l'archipel des Comores aujourd'hui. Ça permet de poser véritablement le problème, c'est-à-dire qu'il y a, depuis à peu près... maintenant 160 ans, je crois, maintenant depuis 1830 à peu près, aux environs de 1830, il y a une entreprise réelle de la part des Français de diviser un pays pour répondre à des intérêts, à des enjeux qui ont été géostratégiques. Et je pense que, d'après ce qu'on m'a dit, Hassan s'est arrêté un petit peu sur l'évolution historique. Cette entreprise-là, elle n'est pas si méthodique que ça, il faut le dire. C'est-à-dire qu'on ne décide pas en France, il y a un siècle, d'aller annexer un pays d'une manière très rationnelle, en disant que chaque année on fera ceci pour en rajouter un petit peu plus. Mais tout converge d'une certaine manière. Si on prend les coups d'État, par exemple, pour prendre l'actualité récente, si on remonte à plus loin, il parlait des gens qui ont été virés de Mayotte à un moment donné, qui étaient notamment des Maorés. Il y a un mouvement là-bas qu'on appelait les Serrer la main et les Soroda. On a viré effectivement près de 3000 personnes, je crois. On les a poussés dehors. 3000 personnes qui n'étaient pas Maorés, qui étaient moitié Maorés, moitié autre chose. Donc à un moment donné... Et ça, c'est vachement important, je crois, de comprendre comment fonctionne la société comorienne, parce qu'on arrive dans ces sociétés-là avec une vision très cartésienne, très... Donc, alors, ceux-là, ils viennent de cette île, donc ils sont forcément enjoanés, ils sont maorés. C'est un imaginaire, parce que moi, je parle beaucoup plus de guerre des imaginaires, c'est-à-dire que c'est un imaginaire qui est ancré aujourd'hui, de la même façon que les jeunes à Mayotte, aujourd'hui, sont persuadés, quand ils ont la trentaine, jusqu'à la trentaine, sont persuadés qu'ils n'ont rien à voir avec les Comores. C'est une vision qui a été imposée, enseignée, ils ont été éduqués, biberonnés à ça, et au bout d'un moment, on finit par croire que c'est vrai. Mais ce qui se passe, c'est que le Comorien, globalement, appartient, mais ça existe dans toutes les sociétés, tout le monde n'a pas connu Bismarck, tout le monde n'a pas connu Versailles, et je pense que ça s'est passé au 19e, et justement, aux Comores, on est arrivé, les Français sont arrivés au moment où peut-être on aurait pu connaître cette envie de nation. Il s'est trouvé que le Comorien, comme partout donc, je disais, appartient à son clocher d'une certaine manière, son village, sa communauté, son clan. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne se considère pas en Comorien, parce que je crois que c'est un parlementaire français, j'ai oublié son nom, Mesmer, je crois, qui disait que ce pays n'a jamais existé, que ce sont les Français qui l'ont inventé. Ce qui est complètement faux. Simplement, le Comorien est jusqu'à maintenant le grand Comorien, puisqu'on veut bien s'y stigmatiser, ou l'Anjouané du New Makele, qui est une région d'Anjouan, va d'abord se positionner, se représenter auprès d'autrui en se déclinant son identité clanique, village, communauté très réduite, avant d'aller plus loin, avant d'aller à la région, avant de se considérer comme appartenant à une île, etc. etc. Et cette situation-là, à laquelle peut-être très peu de personnes, quand ils sont arrivés, les colons, ont compris grand-chose, ou peut-être ils ont très bien compris et ils l'ont utilisé, en tout cas ça a servi à mieux diviser, à bien servir la cause coloniale et tout ce qui s'en est suivi par la suite. Donc c'est vrai que pendant 30 ans, puisque moi c'est la période qui m'intéresse le plus, on a joué sur ces petites différences entre le Comorien d'en face et d'à côté, pour, on les a stigmatisés, on a grossi un peu le trait pour permettre aux gens de penser qu'ils n'ont véritablement rien à voir ensemble. Mais tout à l'heure, il racontait une histoire de langue. La langue comorienne, elle est une et multiple. Et ça, je veux dire, vous passez de l'autre côté du périph, on parle français d'une autre manière. Vous descendez à Marseille, on parle français d'une autre manière. Maintenant, vous avez connu une espèce de centralisme qui a permis à un moment donné d'enseigner un français, ou en tout cas une couleur du français, l'école républicaine, etc., etc., qui permet aujourd'hui de mieux se comprendre et de penser qu'on a des valeurs communes. Nous, on n'a pas connu ça. Les variantes dialectales existent encore. Il y a une différence réelle au niveau du vocabulaire, au niveau lexical, entre l'enjoiné qui est parlé, enfin le comorien qui est parlé en jouant et le comorien qui est parlé. Il ne faut pas minimiser ces choses-là. C'est vachement important. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui n'existent pas, qui existent dans un coin de l'archipel et qui n'existent pas ailleurs. La tendance, quand on milite, c'est de minimiser ces choses-là. Moi, je pense qu'il faut, il faut le dire, il faut le reconnaître, mais bien préciser la problématique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a un problème de vocabulaire, si vous partez, c'est un peu comme de l'autre côté du périph, si vous partez de Moroni, vous allez au nord de la Grande Comore, c'est toujours la Grande Comore, il y a un parler qui va donner l'impression que vous changez complètement d'univers et de monde. Ce qui ne veut pas dire que les gens ne se comprennent pas. Quelques mots n'empêchent pas une population de trouver ses marques, de trouver son identité, de retrouver son identité, etc., etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on a tellement appuyé sur ce bouton-là que beaucoup de gens ont évité le sujet parce que ça les embarrassait, parce qu'ils n'avaient pas de réponse par rapport à ça, et ça a laissé le champ libre à toutes les spéculations et à toutes les conneries. Ce qui fait que, en 97, vous montez dans un taxi à Moroni, vous avez un taximan en joanais qui va parler, et ses clients, grands comoriens, vont dire qu'ils ne comprennent plus. Ils ont érigé des murs en très peu de temps, entre 97 et 99, c'est-à-dire au moment de la crise dite en joanaise. Ce sont des murs imaginaires, c'est pour ça que je parlais de guerre des imaginaires, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les grands comoriens ont accepté que les enjoinés étaient différents, de la même façon que les enjoinés ont décidé qu'ils n'avaient plus rien à voir avec les grands comoriens. Dans la réalité des faits, dans l'histoire, dans la culture, tous ces murs, on peut les faire tomber sans aucun problème. Aujourd'hui, la plupart des hommes politiques qui sont à Mayotte, la plupart ont des origines dites, et je dis dites parce que ça, on pourrait aller très loin avec ce type de débat, dites en joanaise, et ils ont du mal à les assumer. Aujourd'hui, si vous allez dans les préfectures, à la préfecture à Mayotte, vous trouvez des gens qui sont d'origine de la Grande Comore, qui sont les premiers, un petit peu, c'est comme si... C'est pas moi qui utilisais l'image, il y a un ami écrivain qui utilisait cette image-là il n'y a pas longtemps, un petit peu comme Sarkozy, qui aurait du mal à assumer ses origines étrangères et qui serait le premier en France à stigmatiser les étrangers à présent, actuellement. C'est une image qui vaut son pesant là-bas, c'est-à-dire les derniers arrivés sont les premiers à jeter la pierre aux autres. Il se trouve qu'il y a une situation là-dessus qui s'est un peu... qui est devenue très compliquée, qui est la situation de crise de l'île d'Anjouan, qui est une crise foncière à la base. En Moélie, si vous allez à Moélie, il y a de l'espace et très peu de gens qui vivent sur cette île-là, qui sont des gens qui sont mélangés au même titre que toute la population de l'archipel, qui ont des origines, notamment en joanaise. Mais ça ne se pose pas. Il n'y a aucun problème par rapport à ce mélange-là, parce que l'histoire du pays s'est faite comme ça. Mais aussi, il n'y a pas de problème parce qu'il y a de l'espace, les gens vivent à leur aise et ne sont pas obligés de se serrer ou de se pousser pour laisser la place à celui-là ou à cet autre-là. En Grande Comore, nous avons le chef-lieu de l'archipel, donc le poumon un peu économique de l'archipel. Il y a du flux de population, d'argent, donc les gens ont encore les moyens de voir venir. les hommes politiques ou les gens qui font de la politique ont encore le temps de rouler, de changer de 4x4 tous les 3-6 mois pendant que la population crève de faim globalement. Donc, ça crève de faim, on n'en est pas encore à une famine. C'est ce qui fait que peut-être les gens laissent pisser un petit peu, finissent par. Il y a une phrase que les gens utilisent. Moi, j'adore les petits signaux comme ça. Il y a un langage qui est à la mode dans la capitale aujourd'hui. C'est les gens disent à la Fuji, ça va, pour demander si ça va ou en ce moment, etc., etc. Et le ça va, on a considéré avec des amis qu'en fait c'était le ça va de la résignation. Les gens finissent par s'accommoder de cette situation-là, ils vivent avec et ils finissent par se faire une raison, ça ne changera jamais. Le Comorien aujourd'hui n'a qu'une envie, c'est partir. Et partir, c'est pas seulement aller à Mayotte, c'est aller là où son salut se trouve, là où il peut guetter une quelconque fortune. Donc il se trouve qu'en jouant, la situation de crise, elle est exaspérante, elle est vécue plus durement que dans le reste de l'archipel. Et les gens, il y a des enjoinés qui vont en France, quand ils le peuvent, qui vont à Madagascar, qui vont à La Réunion, au même titre qu'ils vont à Mayotte. Il n'y en a pas plus qui vont à Mayotte qu'ailleurs. Simplement, ceux qui vont à Mayotte, et les deux éléments qui font la différence, c'est que, un, ils vont à Mayotte en pensant qu'ils vont chez eux, au départ. Que c'est au-delà du fait que c'est la destination la plus proche. Et deux, ils vont à Mayotte qui pose problème réellement aujourd'hui dans l'espace comorien parce que c'est un problème qui n'est pas réglé, un contentieux, donc qui n'est pas réglé avec la France. Et la France continue à vouloir s'arrimer à ce petit bout d'archipel. Donc ça pose véritablement problème parce qu'entre-temps, il y a le visa Balladur qui est passé. Entre-temps, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que si vous allez à Mayotte aujourd'hui, deux petites anecdotes, les bateaux des gendarmes français, moi j'en connais trois, qui sont à Mayotte, donc qui veillent aux frontières françaises, sont des bateaux qui sont, je ne sais plus le terme utilisé, immatriculés en jouant parce que ça coûte moins cher. C'est bateau personnel. Il y a un fabricant de parfums français, j'ai oublié son nom, qui était parti s'installer à Mayotte parce qu'il pensait pouvoir frauder le fisc. Il s'est fait attraper. Non, c'est pas Givenchy. On va retrouver le nom probablement. S'est fait coincer à Mayotte pour fraude fiscale. Ben, qu'est-ce qu'il a fait après? Il est parti s'installer avec la bénédiction d'autorité mahoraise. Il est parti s'installer en Anjouan. Là-bas, il n'y a plus de contrôle possible au niveau du fisc. Tout en continuant à commercer via Mayotte, puisque son commerce ne passe pas par Moroni, donc n'est pas contrôlé par Moroni, qui est la capitale de la partie indépendante. Donc il faut le savoir aujourd'hui, c'est-à-dire que les Français ils prennent ce qui les sert et jettent le reste. Alors je disais pas entreprise méthodique, parce que effectivement il n'y a pas un chapitre en France dans la Constitution qui dit qu'il faut rester à Mayotte ad vitam aeternam. Et quand on regarde l'histoire, on se rend bien compte que bien souvent, les autorités françaises rivalisent d'improvisation. C'est-à-dire qu'on a Mitterrand qui, il y a 30 ans, trouvait normal que les Mayotte reviennent à l'archipel, et on a Jospin qui arrive 30 ans plus tard et qui dit ce dont vous avez rêvé pendant ces 30 années, c'est la gauche qui vous l'offre. C'est-à-dire la départementalisation. Et quand on demande après au staff de Jospin ce qui s'est passé, je ne sais pas, est-ce que vous vous rendez compte de la grossièreté ou de ce que vous avez dit, etc. etc. Ah bon, ah bon, ah bon, on n'avait pas compris, on n'avait pas vu les choses comme ça, etc. etc. Et on se rend compte que souvent ces gens manipulent une situation, mais ils ne la maîtrisent pas autant qu'on le voudrait, qu'on le souhaiterait. Et comme il n'y a pas d'interlocuteur du côté des Comores, parce qu'on peut poser la question différemment, on peut poser la question du côté des Comores, c'est quand même les Comores qui ont retiré, les Comores officiels, s'entend, qui ont retiré la question qui permettait de condamner la France aux Nations Unies chaque année. question sur laquelle sont revenus les gens du collectif Massiwa. Tu me reprends, je parle sous ton contrôle. Et les parlementaires de l'Union qui condamnent même l'État comorien, le gouvernement comorien, le gouvernement du colonel Azali, parce que justement, ils ont retiré cette question-là. Donc, on peut poser la question dans l'autre sens. Est-ce que les Comoriens, aujourd'hui, ont quelque chose à proposer ou quelque chose à opposer à ce que fait la France dans l'archipel? En réalité, il y a très peu d'hommes politiques comoriens. Alors, après, on peut rentrer dans la phrase afrique, c'est-à-dire que ce sont des hommes politiques qui ont été fabriqués par la France, d'une certaine manière. C'est-à-dire, enfin, je dis d'une certaine manière, mais les choses sont beaucoup plus claires que ça. Si vous prenez le colonel Azali qui est au pouvoir aujourd'hui, c'est un monsieur qui est chef d'état-major à un moment donné. Je ne caricature pas, c'est une situation réelle. Il y a un coup d'état, un type qui s'appelle Denard, tristement célèbre, déboule dans le pays. Théoriquement, il arrive avec des clés qui ont été données par quelques officines officielles ici, les services secrets, ou le Quai d'Orsay, ou etc., etc., arrive pour faire un coup d'État, le chef d'état-major fuit, donc ne se bat pas, sous un capot de voiture, et va se réfugier à l'ambassade de France, qui, dans l'imaginaire du Comorien, est commanditaire, ou en tout cas est associé commanditaire de ce coup d'État. Ce monsieur part grâce à l'ambassade de France après le coup d'État, ou pendant le coup d'État, se retrouve à Paris, fait l'école de guerre, et revient faire un coup d'État, auquel la France, mal à l'aise, a été obligée de dire qu'elle condamnait cet acte antidémocratique, machin, etc., etc. La France qui, finalement, l'a consacré il y a un an à peine, en disant, bravo, c'est bien l'entreprise que vous avez entamée aux Comores, qui a permis de réunir à nouveau les Comores sous une même... Les Comores s'entend, enfin, je veux dire, les trois îles indépendantes, pas Mayotte. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, les trois îles ne sont pas ensemble. Celles qui se disent indépendantes. Ça, c'est une vérité qui gêne, qui nous gêne, nous, en tant que militants pour l'unité. On ne veut pas le dire. Mais l'entreprise de sable qui a consisté pendant 30 ans à semer la zizanie entre les Comoriens, à diviser, elle n'est pas en phase de réussite, elle ne menace pas les Comores aujourd'hui. Elle est réussie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la difficulté pour je me considère pas vraiment comme un militant. Je pense que eux sont des acteurs véritables de la militance aujourd'hui par rapport à la question comorienne. Et la difficulté, à mon avis, me reprendront s'ils ne sont pas d'accord, c'est que dans la réalité, et vous parliez du GRDC tout à l'heure, le groupement de réflexion sur le devenir des Comores, dans la réalité, la division, elle a pris dans la tête des Comoriens. Il y a peu, quand Barouin a fait ses déclarations, tout le monde s'est énervé. Donc, au niveau de la diaspora ici, il y a eu des communiqués qui sont sortis, des condamnations de la position de Barouin, etc., etc., des réactions assez vigoureuses, etc., etc. Et le GRDC nous a envoyé un petit mot à quelques-uns en disant « Attention, attention !» Parce que les Anjouanais qui sont à Mayotte, à l'heure actuelle, là, maintenant où vous parlez, n'ont qu'une envie, c'est se casser, et ils disent qu'ils n'ont plus rien à voir avec les Maoris. Et ils n'ont surtout pas envie de se battre pour rester. Et de l'autre côté, tenez bien compte que les jeunes qui sont ici n'ont pas du tout envie qu'on leur parle du reste de l'archipel. C'était pas pour décourager les réactions, c'était pour dire, tenez compte de la réalité. La réalité, aujourd'hui, moi, je vais à Guérin, dont tu parlais tout à l'heure. Il y a un gars qui fait un film en ce moment sur les jeunes Maorais qui sont envoyés ici dans le centre de la France pour suivre des études qui n'arriveront jamais à terminer parce qu'ils sortent d'un système scolaire qui est complètement foutu, pourri. Alors, il paraît que maintenant, il y a des projets pour rehausser un petit peu le niveau, mais la France, pendant 30 ans, à Mayotte, n'a rien fait de ce côté-là. Aujourd'hui, si par exemple quelqu'un parmi vous n'est pas accepté par l'éducation nationale en France parce qu'il n'a pas eu son CAPES, il suffit d'aller à Mayotte avec un niveau de première année de DEUG, d'accepter d'enseigner dans l'école primaire. Et je ne dis pas une connerie, c'est une réalité. Vous passez un contrat de 3 à 4 ans, et au bout des 4 ans, la République vous consacre, hein, au même titre que tous ceux qui ont passé leur concours ici avec beaucoup de difficultés. Donc, imaginez un gars de première année qui va devoir enseigner dans un univers qu'il ne connaît absolument pas, à des enfants avec qui ça ne passe pas facilement parce qu'il relève d'une culture qui lui échappe légèrement. Je dis légèrement parce qu'on a la prétention de dire que c'est un territoire français. Donc, ça lui échappe quelque peu parce que c'est un univers où tout d'un coup, lui, il a vécu dans un état, enfin, il a été à l'école, on lui a parlé de laïcité, on lui a dit que la colonisation est finie, etc., etc. Il arrive, il trouve des caddies, il trouve des homelands parce que les Mzungu à Mayotte vivent entre eux dans des espèces de enfin, c'est pas encore une situation d'apartheid, ils se mélangent, mais une petite dose avec l'argent français, avec l'argent du contribuable français, parce que c'est vachement intéressant d'aller dans les hauteurs de Mayotte, d'une des îles, et de voir, puisqu'il y en a deux, de voir les maisons strasbourgeoises par exemple, qui ont été construites pour les Mzungu, donc les expatriés, avec l'argent du contribuable français. Donc, ce monsieur est royalement payé, et au bout de 4 ans, il trouve son diplôme. Tant mieux pour lui! Simplement, pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas d'enseigner au gamin maoré. Le gamin maoré arrive en 3e, ça ne fonctionne pas du tout, il n'a pas le niveau, il n'a pas etc., etc. Et là, on se dit, tiens, on va l'envoyer faire une école... en France, parce que le rêve de tous ces gamins-là, c'est de partir en métropole, bien sûr. Donc, on va l'envoyer avec une bourse dans le centre de la France, parce que, en passant, soit dit en passant, ça permet de soutenir des écoles qui sont en train de fermer dans le centre de la France. Donc, la boucle est bouclée, le gamin, il vient, il fait des études dans un univers qui est en train d'être massacré, parce que, c'est-à-dire que si ces écoles-là ferment, ces villages-là sont dans la merde, réellement. Mais en même temps, c'est des écoles qui ferment parce que ça correspond peut-être plus aux attentes en France actuellement, et parce qu'une population est partie de cette région-là. On peut se demander pourquoi. En tout cas, c'est bon pour les jeunes Mahorais, qui au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, sincèrement, je ne connais pas, je ne me rappelle plus du chiffre, mais je crois qu'il y a moins de 20% d'entre eux qui arrivent à s'en sortir. Au bout de 2, 3, 4 ans, c'est-à-dire redoublement, redoublement, redoublement. Là-dessus, on dit, ah non, non, si vous déconnez, on ne vous donne plus de bourse. Hein. Donc, certains se retrouvent sans bourse et changent de vie. Il y en a qui deviennent policiers. Moi, j'en connais à peu près 5 ou 6 qui sont soit en train de devenir policiers, soit qui le sont devenus. Et soit rentre à Mayotte. Alors, à Mayotte, on peut imaginer la situation qui les attend quand on n'a pas une formation qui est aboutie, etc., etc. Ça, c'est une réalité. Mais ces jeunes-là, moi, je les ai rencontrés le jour où le réalisateur m'a demandé d'aller dialoguer avec eux. La première chose, quand je suis arrivé, c'est qu'ils m'ont tous agressé en disant « Mais on n'a rien à voir avec toi. Nous, on est Mahorais, vous êtes Comoriens. » Bon, après, on part dans un débat... jusqu'à preuve du contraire, l'archipel n'a pas changé de place, ça s'appelle l'archipel des Comores. Alors effectivement, moi je fais partie de l'Union des Comores, c'est la partie indépendante. Vous faites partie de Mayotte, mais jusqu'à preuve du contraire, Mayotte fait partie de l'archipel des Comores. Et les cartes ne sont pas faites à Moroni, elles sont faites ailleurs, dans le Nord. Hein, éventuellement, on peut dire la France ou dans d'autres pays occidentaux. Donc, je ne sais pas, à moins qu'il y ait une nouvelle carte du monde qui a été redessinée et tout. Ah oui, c'est vrai, mais n'empêche que nous n'avons rien à voir avec vous. Ah bon, ben alors on discute. Et on se rend compte au fur et à mesure, les gamins disent « Ah ouais, mais c'est vrai. Ah oui, mais ça, on m'avait raconté dans la fin. Ah oui, mais mon père, il paraît qu'il avait fait partie des gens qui étaient opposés à la présence française. Mais depuis, il a arrêté de militer. Ah oui, mais c'est vrai. » Et puis finalement, pour dire quoi? Pour dire effectivement, c'est vrai, nous voulons être français, mais c'est vrai que nous sommes frères. Ces questions, c'est pour ça que je parle d'imaginaire. Ça, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on va en Grande-Comore, les grands Comoriens disent, les Anjouanais, qu'ils aillent se faire foutre, parce que si le pays est dans le bordel depuis 1997, c'est parce que ils ont voulu, ils ont fait leur révolution, soi-disant, ils veulent être séparatistes. Ça, ils existent, et des officiels, des hommes politiques officiels qui tiennent ce discours-là. El Bak, qui est le président de l'État autonome de la Grande Comore, aujourd'hui, le dit. Alors, il le dit moins officiellement, mais il le dit, et c'est un discours qu'il tenait avant d'être président. Donc, c'est une réalité. En juin, Mohamed Bakar, il n'a pas du tout envie qu'on lui parle des Grands Comoriens. C'est une réalité. Donc, aujourd'hui, la bataille est plus dure pour tous ceux qui, comme moi, ou peut-être beaucoup plus ceux-là, parce que je fais la différence, parce qu'ils sont plus devant. Moi, je joue la parole d'artiste, alors c'est plus facile. Mais eux, ils se tapent les textes juridiques, ils se prennent la tête, ils se disent voilà, il faut trouver une astuce, etc. etc. Pour comment remettre ce dossier sur la table? Le dossier, il est très simple, c'est que la France, elle voulait rester à Mayotte. Elle est restée à Mayotte tant que les Comores appartenaient à l'État français. On appelait, c'était même pas considéré comme un véritable territoire. On appelait ça Madagascar indépendance. Et donc, il y a eu un moment où l'indépendance de Madagascar s'est posée. Donc, il a fallu revoir toutes ces choses-là avec les Comoriens. Et comme il y avait des velléités d'indépendance, on a trouvé plus facile de se dire, écoutez, on peut leur laisser le reste de l'archipel, on récupère Mayotte. Mais ce n'est pas possible, parce qu'il y a des lois, il y a un droit international qui stipulait à ce moment-là que y a un respect des frontières qui est nécessaire dans toute action de décolonisation. Et quand on en est arrivé là, il y a des règles qui ont été énoncées par l'État français. On me reprend si je me trompe. Des règles qui étaient très claires. C'est-à-dire que les Comoriens devaient se prononcer, dire s'ils voulaient rester Comoriens, enfin s'ils voulaient être Comoriens indépendants, ou s'ils voulaient rester dans le giron français. Ils ont voté Comoriens. Là, c'est passé le tour de magie, j'allais dire. C'est-à-dire que les Français ont dit, mais on peut faire le décompte île par île. Sauf que ça, c'était pas prévu. Ce n'était prévu nulle part. Sachant que les gens qui ont voté à Mayotte, il y a une bonne partie de l'île qui a été virée de l'île. Grâce à ces liens qui font que, en réalité, il n'y a pas de Maorés. Il y a des Maorés au sens d'une appartenance à un lieu. On a grandi dans un lieu. Moi, aujourd'hui, si vous me demandez si je suis Comorien, oui, je peux le dire de différentes façons. Je suis Comorien parce que je suis né aux Comores, j'ai grandi aux Comores, une bonne partie de ma vie, etc., etc. Mais je peux vous dire, je suis Parisien parce que j'ai vécu 13 ans à Paris et qu'une bonne partie de ma vie se passe à Paris. Après, il faut voir la part il faut voir la situation telle qu'elle se présente. C'est-à-dire que si aujourd'hui, le fait d'être Parisien consiste à oublier qu'à Moroni, la France est en train de bouffer un pays tout entier, une population tout entière, je dis non, je ne suis pas Parisien. Donc, on appartient à un lieu, on appartient au lieu où l'on est, on appartient au lieu où l'on se représente soi-même, c'est-à-dire son activité, sa vie, son quotidien, etc. etc. On a cette chance d'avoir j'ai cette chance d'avoir cette double appartenance qui me permet de relativiser énormément. Et c'est vrai que le Maoré est Maoré parce qu'appartenant est né à Mayotte, etc., etc. Maintenant, par rapport à l'histoire, par rapport à la culture, c'est une population à la base mélangée, énormément mélangée. Imaginez les gens de Chikoni ou les Malgaches de Mayotte qui aujourd'hui disent que nous sommes Malgaches, nous n'avons rien à voir avec les Comoriens. Les Maorés sont Malgaches. Il y a eu cette thèse-là à un moment donné, comme il y a eu une thèse pareille à Marseille. À un moment donné, on voulait relativiser, calmer la communauté maghrébine. On a dit aux Comoriens de booster leurs chiffres et de dire qu'ils étaient l'une des plus grosses communautés de Marseille. Ça, c'est la mairie de Marseille qui a demandé ça. Donc, on a fait la même chose. Simplement, il y a eu un moment où ceux qui prétendent être Maorés de souche ont décidé que les Malgaches en prenaient un peu trop sur le gâteau. Donc, ils se servaient un peu trop. Donc, ils ont commencé à dire, ah non, mais toi, tu parles, toi, t'es Malgache, toi. Et la thèse du jour au lendemain, c'est comme si elle n'avait jamais existé. Donc, il faut tenir compte de cette donnée-là. C'est-à-dire que la France, elle est restée. Elle a eu les moyens de rester à Mayotte en 74, en 75. Elle a continué à, pour pouvoir rester tranquillement à Mayotte, elle a continué à déstabiliser l'archipel, parce que ça servait ça, son entreprise de... Alors à l'époque, on parlait de guerre froide. Simplement, ça ne s'arrête pas aux enjeux géostratégiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, gamin, tu me dis, moi, je ne suis pas Comorien, je suis Mahorais, je grandis, j'arrive à 5 ans, tu me dis, je suis Mahorais, j'arrive, j'ai 15 ans, tu me dis, je suis Mahorais, j'arrive à 20 ans, tu me dis, je suis Mahorais. Je doute fort qu'un jour, tu arrives et que tu me dis, je ne suis plus Mahorais et que je l'accepte facilement. Et donc ça aussi, ça entre en jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le serpent se mord la queue. On a des Maoris qui ne veulent pas redevenir Comoriens et qui ne se sont jamais représentés en tant que Comoriens. Qu'est-ce qu'on fait de cela? Admettons que l'État français accepte, ce dont je doute, accepte que Mayotte revienne. Mais qu'est-ce qu'on fait de toute cette partie de la population à qui on a vendu le rêve français pendant des années? J'ai lu un texte il n'y a pas longtemps de quelqu'un de La Réunion, que je ne partage pas les convictions, mais qui disait qu'il faudrait peut-être racheter. Inverser la chose et permettre à tous ces jeunes Maoris qui veulent venir en Europe et qui viennent en Europe, et puis trouver un moyen de s'entendre avec l'État français par rapport à l'État comorien, rendre Mayotte peut-être. Je dis je ne suis pas d'accord avec ces convictions parce que je n'ai pas tout compris vers la fin, sa théorie, mais l'idée ce serait une idée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les jeunes Maoris n'ont qu'une envie, c'est partir. Ce sont des jeunes qui sont assistés complètement, qui n'ont pas de formation, et sur une île qui est ingrate. Parce que la partie touristique que l'on commence à développer aujourd'hui sur l'archipel ne profite qu'à des métros, c'est-à-dire des expatriés qui achètent. On a lancé une entreprise de cadastre dans l'archipel, dans l'île de dans Mayotte, parce que je dis j'hésite toujours, parce qu'en fait il y a deux îles, une petite et une grande. Et on commence à acheter énormément. Donc, on peut imaginer, en étant scénario catastrophe, hein, en étant un peu pessimiste, que dans 50 ans, l'île n'appartiendra même plus à ceux qui se prétendent Maorais de souche aujourd'hui. Et ça se fait dans la mesure où eux-mêmes sont contents de pouvoir partir et de venir en Europe. Ce qui est le rêve de tout Comorien, aujourd'hui. Parce que la France est devenue la destination de l'immigration comorienne par excellence. Pour X raisons historiques. Donc il faut tenir compte de toutes ces données-là, tenir compte du fait que les Comoriens eux-mêmes sont complètement dans la confusion la plus totale aujourd'hui. C'est bien de dire, ouais, on se bat, c'est bien, etc. Mais c'est bien aussi de reconnaître la réalité. Il n'y a qu'un seul homme politique au jour d'aujourd'hui qui a affronté cette réalité-là. Ce n'est pas le meilleur, mais c'est le seul qui a affronté cette réalité-là. C'est-à-dire que d'une façon symbolique, Ali Soli, en 1975, s'est dit, on ne peut pas reprendre Mayotte sans les Mahorais. Donc il a fait ce qu'on a appelé la marche verte. Il est allé à Mayotte, il s'est fait jeter des boules de tomates et des œufs pourris dans la gueule, mais il a fait au moins la démarche d'y aller. Aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'Azali, Mohamed Bakar, qui sont en train de se battre pour se partager les petites dividendes de la prochaine conférence liée à l'unité de l'archipel, etc., etc., sont en train de se demander s'il faut aller à Mayotte ou pas. Azali a fait une opération vitrine, juste un passage rapide comme ça, pour être vu par les médias, en disant Mayotte nous appartient, mais entre-temps, il avait fait retirer la question de Mayotte aux Nations Unies. Entre-temps, il a accepté que Mayotte participe aux Jeux des îles de l'océan Indien, ce qui a été un tollé pendant des années. Les îles de l'océan Indien ont toujours refusé, tant que Mayotte ne revient pas dans le giron comorien, nous n'acceptons pas, c'est Madagascar, c'est Maurice, y compris La Réunion était dedans. Et là, les Madagascar, Maurice, Seychelles ne comprennent plus rien, parce que c'est l'État comorien lui-même qui accepte que Mayotte aille aux œufs des îles. Et comme c'est les Français et l'Union européenne qui financent en bonne partie ces jeux, personne ne va cracher sur la main qui nourrit. Donc, quelque part. Oui, je voulais juste préciser ce truc-là. Parce que cette chose, nous, ça nous gêne. Ça nous rend mal à l'aise de savoir qu'un Comorien aujourd'hui n'a pas envie de voir un autre Comorien, malgré tous nos discours. On peut faire de l'histoire, on peut faire du débat intellectuel, machin, etc. C'est une réalité. La France, elle a gagné là-dessus. Et je terminerai sur une chose.
sur Chamanga, qui est linguiste, et qui a été le monsieur qui a été à la tête du mouvement antiséparatiste anjouanais. Il a incarné un peu le débat, il y en a d'autres, mais lui, il l'a incarné parce qu'à un moment donné, l'extrême droite a aidé les séparatistes anjouanais à porter plainte contre lui ici en France. Ils ont perdu, les antiséparatistes, nous avons perdu ce procès-là. Les séparatistes ont gagné. Et aujourd'hui, Chamanga, qui s'apprête apparemment à se présenter aux élections l'année prochaine, si elles ont lieu, si Azali accepte de céder la main, eh bien Chamanga lui-même, il le reconnaît. Le combat antiséparatiste, eh bien, il a un peu... Tu vois, on a un peu perdu là-dessus la bataille. Les séparatistes ont gagné. Alors, il faut tenir compte de ça avant de donner des leçons, avant de re-raconter, de refaire l'unité de l'archipel.